Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans le fauteuil. Nous sommes dimanche, il est 19h horaire, un petit peu inhabituel, mais on est revenu au dimanche. C'est déjà ça. Bienvenue à tous pour le fauteuil des finales de conférence. Une belle soirée. Alors, je vais pas dire la meilleure soirée NFL de la saison, puisque j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, ou en tout cas toutes les semaines de playoff. C'est une des meilleures soirées quand même, parce que là, on a un match en prime time à 21h qui va être superbe, et un match dans la nuit pour les couches tard qui va être superbe aussi. Vous avez l'habitude, j'envoie le petit lien sur les Twitter et sur les Facebook, et comme ça, sur les interwebs, tout le monde est prévenu que nous arrivons. Hop, c'est fait avec les deux liens. J'espère donc que tout va bien pour vous, j'espère que vous passez un bon dimanche, j'espère que vous n'avez pas trop froid, et nous allons, hop là, passer à... ça. Bonjour à Axel, bonjour à Guillaume, bonjour à Pierre, bonjour à Maxime, bonjour à Porzingod, il est toujours blessé Porzingis ? Je sais plus. Loïc, bonjour aussi, bonjour David, bonjour Tars Velder, bonjour Flo07, bonjour Tierno, bonjour Guillaume, mais Guillaume qui a déjà plein de monde. Bonjour à tous, donc bienvenue dans un nouveau fauteuil. On l'a dit, c'est une belle soirée qui nous attend, parce que on a du Rams Saints en levée de rideau, j'ai envie de dire. C'est pas vraiment en levée de rideau, mais en tout cas en début de soirée, 21h, et puis minuit 30 ou 40, j'ai un doute, je crois que c'est 40 maintenant, pour la finale AFC. FC entre les Patriots et les Chiefs. L'occasion pour moi de vous rappeler tout d'abord que le fauteuil du dimanche vous est présenté par Unibet, votre fournisseur des tours obligatoires pour les paris NFL. On les remercie évidemment de nous suivre et de nous aider. Guillaume qui dit il manque un maillot des Saints, oui, parce qu'on en a pas, on en a pas sous la main. Mais évidemment, dès que dès qu'on connaîtra les affiches du Super Bowl, on vous fera gagner des maillots des finalistes du Super Bowl. Donc, évidemment, le programme de la soirée, je vous le donne, il est très simple. Premièrement, on va commencer avec un petit peu d'actu, je vais vous dire ce qui se passe dans les matchs de ce soir. Le gros morceau de cette émission, c'est les plus gros upsets de l'histoire des playoffs NFL. On va beaucoup, beaucoup parler, figurez-vous, des équipes qui sont en cours ce soir, c'est-à-dire que les Saints, les Patriots, les Rams et les Chiefs sont impliqués dans certaines des plus grosses surprises de l'histoire de la NFL. Donc on va faire les plus gros upsets de l'histoire de la NFL, mais en centrant sur ces quatre équipes notamment. Et puis, évidemment, beaucoup de vos questions, on prendra vos questions, n'hésitez pas à les mettre dès maintenant, hein. Je remonte le fil de vos commentaires. Oui, il y a Flo07 qui dit retiens-nous ce maillot de Brady, on veut pas que le live bug. Ouais, mais c'est le seul qu'on avait, mais dans l'autre sens c'est inversé, c'est le seul que j'avais sous la main, donc voilà. Le Kelsey, il est déjà gagné, il a été gagné la semaine dernière, le Antonio Brown, il est en train d'être gagné, enfin il est en train d'être gagné, le concours est lancé, donc n'hésitez pas à aller jouer, mais j'ai pas mis Antonio Brown dans le décor, parce que bon bah voilà, il est pas le sujet du jour a priori. Donc je disais, n'hésitez pas à poser beaucoup de questions. Je vais d'abord faire un petit détour par l'actu, ensuite je prends vos questions, ensuite le thème de la semaine, ensuite vos questions, ensuite la présentation des affiches, ensuite vos questions. Vous avez l'habitude, et il y a un fromage à côté de moi pour la fin de l'émission, et il pue très fort, ça embaume à peu près toute la pièce. Donc, je disais, l'actualité de la semaine et du soir, je tenais quand même à faire un petit point, c'est que Eric Berry est opérationnel. Eric Berry devrait donc jouer pour les Chiefs, même si je crois que c'est ESPN qui rapporte qu'il pourrait être opéré pendant l'intersaison après, mais en théorie, il devrait jouer ce soir. Laurent Duvernay-Tardif et Spencer Ware aussi. Laurent Duvernay-Tardif, canadien, hein, francophone, qui a été blessé depuis la semaine 6, si je ne dis pas de bêtises, il y avait une fracture du fibula. Il est enfin opérationnel. Depuis, son absence avait été comblée, évidemment. Donc, à quel rôle, à quelle hauteur il sera utilisé, c'est une autre question. Mais en tout cas, il est actif. Pas de blessé côté Patriots. La feuille de blessure est complètement vierge. Du côté des Saints, 35 réceptions, 400 yards, 2 touchdowns, c'est l'affiche de Ben Watson qui ne sera pas là dans cette rencontre de 21h à cause d'un problème à l'épaule, donc ça fait une cible en moins pour Drew Brees. C'est pas la plus importante, mais c'est quand même à noter parce que c'est un tight end et qu'il pouvait avoir un rôle à jouer là-dessus. Sinon les actus au niveau des coachs, C'est assez simple, hein. On a fait un grand tour ces dernières semaines de qui était embauché, qui n'était pas embauché. A priori, il n'en reste plus que deux. Enfin, c'est pas a priori, il n'en reste plus que deux. Les Bengals et les Dolphins. Les Bengals seraient toujours bloqués sur, enfin bloqués dans le sens du terme, hein, sur Zach Taylor, le coach des quarterbacks des Rams. Et les Dolphins sont, eux, focalisés sur Brian Flores, des Patriots, pardon, coach des linebackers, qui est leur candidat rêvé, enfin leur candidat arrêté. Donc, a priori, dès que les Rams et les Patriots seront sortis, Zach Taylor ira aux Bengals et Brian Flores irait du côté des Dolphins. Il y a une très bonne remarque de Guillaume qui dit que Sheldon Rankins est absent aussi, évidemment. Comme on l'avait dit plus tôt dans l'émission, c'est vrai que j'avais un peu zappé, là je prenais les toutes dernières. Mais oui, grosse absence hein, à noter chez les Saints, Sheldon Rankins, sur la ligne défensive. Et quand on sait qu'ils vont avoir un très très gros match-up avec la ligne offensive des Rams et Todd Gurley qui va beaucoup courir, et les autres, y a Loïc qui a un peu d'humour médisant. Et donc, alors Loïc, il n'aime pas les couleurs des Rams sur le chat parce qu'il dit live sponsorisé par Ikea, visiblement, voir le maillot de Jared Goff derrière. Oui, il est jaune et bleu, mais bon, c'est les couleurs du fauteuil, hein, jaune et bleu. Donc, je disais, vos questions, n'hésitez pas, je vais remonter un petit peu. À quand la prochaine mock draft de Grégory sur le site, Thomas? J'ai pas la date exacte, mais on va commencer à faire ça tranquillement en février-mars, il n'y a pas de souci. Hop là, Guillaume, est-ce que Grégory est prêt à aller à Atlanta et assister à un sac des Saints? Oui, on continue de le charrier avec ça, clairement. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il est prêt pour aller à Atlanta. C'est la bonne nouvelle. Il sera à Atlanta, tout va bien. Pour voir les Saints, bon, bah ça, c'est pas grave. Je pense qu'il sera content d'y être quand même. Connaît-on la température à Kansas City? Il y a Loïc qui a répondu lui-même dans les commentaires. Il fait moins 7 degrés à Kansas City en ce moment. Hop là, voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois qu'il n'y en avait pas trop d'autres. Donc hop, les similarités entre Sean Payton des Saints, Sean McVay des Rams. Ils ont tous les deux obtenu leur première chance dans la ligue sous John Gruden. Ah, c'est vrai ça. Hop. David, des infos sur qui commentera le Super Bowl sur TF1. On a des petites idées, mais on n'a pas le droit de parler officiellement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver vite, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Saints Pat, ouais, le Saints Pat pour Grégory, en effet, dit Clément, là ce serait la totale pour lui, je crois. Loïc préfère le orange, noir et blanc, en effet. N'hésitez pas encore une fois si vous avez d'autres questions, et sinon, moi je vais commencer doucement le thème de la semaine. Alors, les plus gros upsets de l'histoire. Avec qui faut-il se prostituer pour avoir le maillot de Brady, pour savoir si ça vaut le coup, dit les chroniques les chroniques du Viking, pardon. Oui, mais celui-là, non, il n'est pas à donner. Il fait partie de la collection personnelle TDA. Quel est le record de match pour un froid, pour un match NFL? Je vais y arriver. Alors, je dirais que ça doit être le Ice Bowl. Je vais vérifier au moment où je vous le dis parce que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça doit être le Ice Bowl. Alors c'est ça. C'était en 67 entre les Cowboys et les Packers au Lambeau Field, et en effet c'était connu comme le Ice Bowl. Alors arguably, je voudrais juste là. Alors voilà, il faisait. Faut que je fasse la conversion puisqu'évidemment nos amis américains en Fahrenheit. Mais ça faisait un bon -25 entre les Packers et les Cowboys. Donc oui, c'était plutôt pas mal. Le plus gros upset à la lap là, ouais, Packers Cowboys de 67. Bon, là, il y avait la réponse. Vous êtes trop efficace sur le chat. Un petit mot de courage à Tierno qui dit je commence à 5h demain, je vais veiller comme une vulgaire à l'antenne, mais on a l'idée. Ouais, ça va pas être facile la journée de demain pour certains. Le match commence à 00h40, le deuxième, donc on va compter 3h30. Ouais, 3h, ouais, 4h30, on va dire, on est couché. Bon, ça va être compliqué, mais ça va être c'est une belle soirée. C'est une belle soirée. Après, plus vous êtes jeune, plus c'est facile à encaisser. Le réveil va piquer, en effet. Il y a Thomas qui dit j'ai dit qu'elle allait être le prochain coach des Bengals, c'est Zach Taylor, le coach des quarterbacks des Rams. Qui joue à -27, ouais, -25, -27, ouais, c'est pas facile, mais bon. Pierre, Kareem Hunt aux Bears, rumeur crédible pour interrogation. Là, honnêtement, pour l'instant, les dernières infos d'NFL Media ces dernières heures, c'était que la NFL essaye de finir son enquête sur Kareem Hunt et de donner un verdict. Alors, pas forcément un verdict, mais de donner au moins des indications aux équipes sur ce qui les attend en termes de suspension, etc., pour qu'il soit fixé avant la free agency. C'est-à-dire que les équipes qui veulent le signer au moment de la free agency soient à peu près fixées sur ce qu'ils auront. Après, Bears ou ailleurs, honnêtement, moi j'ai rien vu passer qui crédibilise une rumeur sur les Bears. On est encore assez loin, il n'y a pas encore de sanctions annoncées, donc pour l'instant c'est vraiment à prendre avec précaution. David, retraite pour Brady s'il gagne le Super Bowl. Honnêtement, ils n'ont pas donné de signe de vouloir arrêter, que ce soit lui ou Bill Belichick, donc j'ai aucune raison d'y croire. Après, rien n'est impossible. Hein. C'est vraiment autant il y a quelques années pour Peyton Manning par exemple, on sentait plus ou moins que ça venait. Autant pour Tom Brady, pour Peyton Manning pour le coup, vraiment, on avait vraiment cette impression là quoi. Il l'a annoncé sur le terrain après le match. Voilà. Mais pour Tom Brady, là, honnêtement, voilà. Victor, 33 ans, couché à 4 heures, devoir me lever à 7 heures, je vais demander à la Sécu s'il rembourse les vitamines. Oui, bah, je compatis. Je compatis, on a le même âge, Victor. Laurent Duverne est tardif, c'est une star. Il est interne en médecine, il fabrique des bols en bois. Alors, c'est Lille qui dit ça. Alors, je ne savais pas pour les bols en bois, mais oui, il est interne en médecine, clairement, Laurent Duverne est tardif. C'est vraiment un super joueur et un super personnage, j'utilise le mot entre guillemets, mais c'est vraiment quelqu'un d'intéressant en tout cas, et vraiment avec une histoire hyper intéressante. Rich Lowe et la retraite de Breeze, c'est pareil, il n'a pas donné d'indice quant à une éventuelle retraite, il est signé pour une année de plus, il a re-signé, on rappelle quand même, on a oublié, hein, mais Drew Breeze était free agent au mois de mars dernier, il a re-signé pour 2 ans, donc voilà. Tiens, il y a Yannick qui dit, moi je sais que le RSI ne me les rembourse pas les vitamines, là aussi je compatis. Oui, alors ça c'est vrai, pour Zingot qui dit Manning qui avait préféré balancer une petite pub pour Bud plutôt que d'annoncer sa retraite. En effet, je me suis embrouillé, mais c'était sur le terrain, il fait le truc, je vais aller boire une bonne Bud Light et tout, c'était quand même assez... Manning c'est un robot quand même, il pense à ses annonceurs avant tout. Le plus vieux quarterback ayant disputé un Super Bowl, Guillemot, je dirais que c'est Tom Brady l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je crois, hein, je crois. J'ai toujours peur de dire des bêtises comme ça. Le plus vieux à l'avoir gagné, c'est John Elway, à 38. Mais du coup, le... Eh ben non. Alors attends, est-ce qu'il y a... Alors, Peyton Manning avec quel âge ? Il y a John Elway qui est un des plus anciens. En tout cas, le plus vieux à l'avoir joué, c'est Tom Brady. On rappelle quand même qu'on insiste à quelque chose d'exceptionnel avec Tom Brady et Drew Brees. On va avoir deux quarterbacks de plus de 40 ans en finale de conf. On pourra avoir deux quarterbacks de plus de 40 ans au Super Bowl. Et en fait, ces deux mecs-là ont banalisé l'exceptionnel. Voilà. Ils ont banalisé l'exceptionnel. C'est quand même... On voit pas ça, c'est-à-dire que nous, le site s'est lancé en 2007, je me rappelle les premières retraites par retraite de Brett Favre, etc. Quand il commence à tergiverser comme ça, il a 35 piges ou quelque chose comme ça, enfin, on partait pas si vieux, on partait pas si vieux, donc là, on assiste vraiment à de l'exceptionnel. Alors, on rappelle... Le dérapage. On rappelle qu'on assiste, voilà, excusez-moi. Alors attendez, je remonte un petit peu. On va tous avoir envie de prendre notre retraite demain matin au boulot. Clairement, le lendemain de finale de conf et le lendemain de Super Bowl, ils sont toujours un peu durs. Ils sont toujours un peu durs. Donc le plus vieux, hop, Kyler Murray à la draft, on y croit, premier tour, Pierre. Alors là, je saurais pas répondre encore, je laisse au spécialiste draft. Claude FR14, quel meilleur quarterback ce soir? Elle est dure celle-là. Elle est dure. Alors, on a posé la question sur le site il y a quelques jours. On avait demandé ballon à 2 minutes de la fin, 6 points de retard, qui vous voulez avoir. Tom Brady était clairement le numéro 1 du vote. Derrière, il y avait Drew Brees, Pat Mahomes, ça se tenait, et Jared Goff était un peu décroché. J'ai envie de dire qu'il y a deux configurations. Intrinsèquement, aujourd'hui, Pat Mahomes a quand même le bras, il a quand même la vivacité, il a quand même la jeunesse. Voilà, Drew Brees et Tom Brady ont l'intelligence de jeu au-dessus, mais physiquement, et c'est absolument pas contre eux, c'est normal, ils ont plus de 40 ans, sont peut-être un petit peu en dessous, ils sont pas aussi vifs, ils ont pas le même bras, ils ont pas toutes les capacités qu'a Pat Mahomes physiquement. Donc physiquement, intrinsèquement, le meilleur quarterback c'est peut-être Pat Mahomes aujourd'hui, il va être MVP cette saison. Après, si la question est de savoir lequel on a envie d'avoir dans son équipe ce soir, je pense encore une fois que Jared Goff est décroché par rapport aux trois autres, mais je sais pas s'il y a une mauvaise réponse entre les trois autres quoi. Donc, Donc voilà, c'est vraiment au choix de chacun. Je sais pas, Brady en playoff, c'est quand même dur de faire mieux, quoi. Donc on peut, il a tous les records en playoff. Donc c'est quand même dur d'aller contre lui. Alors, les chroniques du Viking, Manning n'avait clairement plus envie à la fin, Brady en veut, son corps qui, c'est son corps qui va lâcher avant son esprit. Bah après, le corps de Manning, il avait bien lâché aussi quand même. Il avait quel âge Warner, dit David? Je sais plus, mais je crois qu'il était un peu plus jeune que ça quand même. Guillaume, plutôt Belichick ou Popovic, tout sport confondu. Ouah, c'est dur. C'est dur. Après, bah, Popovic, les deux sont des super coachs, hein, c'est quand même très dur. Pour moi, c'est les deux boss dans leur secteur, quoi. Donc voilà. Thomas, tu as fait quoi comme étude? Si tu veux bien répondre, fais-le vite. Ouais, alors c'est pas tout à fait le sujet. Fac d'anglais, école de journalisme. Hop là. Alors, c'est confirmé Patrick Mahomes, MVP, demande Axel Martin. Alors non, c'est un pronostic que je vous donne un peu largement. Il y a la Pro Football Writers Association, la PFWA, qui a élu son MVP et c'était Pat Mahomes la semaine dernière. Sachant le bilan des Saints, sachant que c'est seulement le troisième joueur à avoir 50 touchdowns à la passe, ça semble quand même plutôt bien parti. Voilà, ça semble quand même plutôt bien parti. Hop, ils ont tous une ligne offensive, dit Raphaël sur le chat. Il a raison, ça joue énormément pour tous. Alors autant pour moi parce que vous avez mis tellement de commentaires que je me suis perdu. TD Actu fait des mots d'excuses pour demain matin, demande David. Tiens, c'est marrant, on va peut-être faire ça pour le Super Bowl pour rigoler un petit peu. Il faut déjà manger le fromage, d'où les problèmes de prononciation. Alors non, j'ai pas commencé maintenant. Le monde contre les pattes ce soir, dit François. Oui, on aime bien blaguer là-dessus. Hein. Bonne année aussi à François et meilleurs vœux à tous aussi. George Blanda est le plus vieux QB à avoir joué un Super Bowl. Il avait 48 ans, dit Loïc. Waouh. Alors là, j'avoue que j'avais pas fait. J'avoue que j'avais pas fait le truc. Mais est-ce qu'il était encore quarterback ou il jouait? Parce qu'il a joué kicker hein, à un moment, non, Blanda. Donc bon, en tout cas, je crois Loïc pour le fact-checking en live, il n'y a pas de souci. Alors, je vois du Messi Ronaldo, LeBron James. Ah oui, d'accord, des sportifs qui banalisent l'impossible. Oui, je pense qu'on est clairement dans une ère avec ces mecs-là qui banalisent en effet des trucs qui sont assez délirants. Sans rentrer dans le débat, je n'ai pas d'avis sur Messi contre Ronaldo. Attention, je tiens à le préciser tout de suite. Demain, 3 heures de train, hop, c'est les compléments alimentaires à 700$ de Tom Brady qui font qu'il dure dans le temps. Après, il y a aussi quelque chose. Voilà, il y a Loïc qui dit ah non, pardon, c'est pas Georges Blanda. Merci. Oui, alors c'est au-delà des compléments alimentaires, il y a quand même le fait que c'est plus le même métier qu'il y a 15 ans. Quarterback, ils sont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux protégés. Donc ça allonge forcément la durée de leur carrière. Pour le Super Bowl, je me suis arrangé avec des collègues pour pas venir, dit Porzing God. Oui, je vois que ça échange les bons plans. Il y a Zabrak qui dit pour une fois, je vais remercier mon agence d'intérim qui a mis fin anticipé à mon contrat. Le succès des Rams ne va-t-il pas résider dans la capacité de Marcus Peters à limiter Michael Thomas, demande Flo07. Alors, on en a parlé dans l'émission, ce serait surtout Aqib Talib aussi qu'il va falloir surveiller parce que il n'était pas là au match aller et donc ça va quand même être un facteur très important. Les nouvelles règles NME, voilà, c'est confirmé. Hop, vous êtes beaucoup aujourd'hui, dis donc, j'avais même pas vu. Les Rams m'impressionnent, dit Florian AZNRC. Steve Young jouait à un niveau de MVP à 36-37 ans, déjà à la fin des années 90. Penses-tu une retraite de Brady Belichick Gronk en cas de victoire au Super Bowl? Y crois-tu? Demandait Léo. Donc, Brady Belichick, j'avais dit, y a pas d'indice. Gronk, c'est à surveiller quand même, parce qu'il a envie de faire d'autres choses pour le coup. Donc Gronk, c'est à surveiller. Il y a Loïc qui dit, je viens de vérifier, c'est bien Brady le plus vieux à avoir joué un Super Bowl. Ah bah voilà, merci. Et Manning le plus vieux à avoir gagné, oui, donc c'est ça, il a dépassé John Elway, alors a priori. Benjamin Watson s'échauffe, dit Benoît. Ah bah alors, il va peut-être être actif. Bon, mais ce serait une bonne surprise, n'hésitez pas à me transmettre, je vais pas pouvoir voir tomber la liste des inactifs au moment où je vous parle, donc n'hésitez pas à transmettre les infos. Votre question sur les quarterbacks était tellement ciblée vers le vieux, dit Steve Core, alors je sais pas. 37 ans Warner en 2008, ah oui c'est vrai. C'est vrai, donc voilà, il est un peu en dessous de tout ça, et du coup il a perdu en 2008 Kurt Warner. Est-ce que Mahomes va supporter la pression? Question de Rich Lofranca. Voilà, dis donc, je perds le... Hop là, je perds le fil à chaque fois. Donc Mahomes, je pense, ils n'ont pas l'air d'avoir peur, ils n'ont pas l'air de jouer apeurés, ils vont avoir un gros public derrière eux. Après, c'est un facteur, on n'est pas dans leur tête, quoi. Donc je peux rien vous dire avec précision, quoi. Guillaume, est-ce que j'ai peur d'une erreur d'Andy Reid ce soir? Voilà. Pouf, pouf, je n'y arrive plus. Non, je sais pas, c'est dur de dire ça. Il a quand même joué, il a quand même atteint un Super Bowl, il a quand même des super joueurs avec lui, il est entouré, il y a des coordinateurs. C'est, je trouve que ce serait un peu dur de lui tomber dessus en disant ah, il fait une Andy Reid. Bon, c'est à voir. Les Chiefs peuvent-ils se refaire leur performance en défense? Alors, ça, on va parler tout à l'heure. Le plus gros upset de l'histoire, c'est Baltimore qui bat coup sur coup Denver et New England en 2013, dit Mouignou. Ouais, mais c'est pas, ils sont pas, ils étaient pas invincibles quoi, en face, même si c'est des gros upsets. Classement des coureurs de la soirée: Camara, Gurley, Mitchell, Hill, White. Ah, je mets Gurley devant Camara. C'est Victor qui propose. Ouais, non. Gurley, Camara, Mitchell, White. Il m'en manque un, là. Il manque celui des Chiefs. Ouais, qui, du coup, se classe derrière. Où est-ce que je peux envoyer une petite enveloppe pour gagner le maillot d'Antonio, dit François. Non, je suis incorruptible. Comment défendre sur le tandem Kelce Hill? Ça va être compliqué, clairement, ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup de pression sur les linebackers de cette équipe, de New England. Je continue vos questions, mais alors, faudrait que je trouve un moyen d'agrandir la fenêtre, en fait, sur YouTube, parce que je vois très peu de trucs. Voilà. Alors, je remonte un petit peu. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Qui pour s'occuper de Travis Kelce? Donc on l'a dit, Devin McCourty, a priori, hein, le safety des Patriots. Si c'est 3 laps. Lire les pseudos, c'est un métier, dit Loïc, oui. Gronk, c'est fini, c'est un Noël maintenant, il est vraiment raide, ouais, donc c'est bon, pas jusque-là, mais c'est vrai que les blessures ont fait du travail de sape quand même. Tu préfères avoir dans ton équipe Todd Gurley en bonne santé ou Camara plus Ingram? Elle est dure celle-là. Elle est dure celle-là. Gurley, parce que Gurley avec CJ Anderson, ça marche aussi. Mais c'est leur ligne, hein. La ligne offensive aussi fait un énorme boulot. Tu crois pas que ça va poser un problème si ça généralise les quarterbacks de 35-40 ans? C'est autant de place qui se libère pas pour les jeunes. Question de Philippe. S'ils sont bons, ils restent. S'ils sont pas bons, ils sont remplacés. Je pense qu'il y a toujours du turnover et il n'y a jamais 32 quarterbacks titulaires en NFL, donc il y a toujours du turnover quoi qu'il arrive. Finalement, la méthode ce soir, c'est comment, demande Pierre. On est apparemment moins 7 degrés, on l'a dit tout à l'heure. Hop, je pense, toc, et hop, hop, hop. Alors, mais c'est, voilà. Y aura-t-il des conversions à 2 points ce soir, Julien? Pareil, selon les situations, mais avec l'agressivité de tous les coachs en lice, là, actuellement, je pense qu'en effet, c'est très possible. Julien Edelman est-il un top 10 des receveurs dans cette ligue ou top 5? C'est dur, top 5, ça me paraît difficile. Parce que là, j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit, type DeAndre Hopkins, type Joe Jones, type Michael Thomas, il y en a quelques-uns quand même. Top 10, ouais, top 10 quand il est en forme, parce qu'il n'a pas eu une saison de folie. Oui, Tyreek Hill, c'est pas un coureur, disait Aldra, oui, en effet, hein, c'est pour ça que je cherchais le nom de... C'est Williams pour les Chiefs tout à l'heure. Le coordinateur offensif des Packers aux Jaguars, mais pourquoi lui? Oui, bon... C'est beaucoup de copinage aussi en NFL. Hein. Est-ce qu'il y a Johnny au Halftime Show cette année? Demande Rodman. A priori, il est indisponible. Voilà. Allez, va-t-on assister à une boucherie dans le Saints Rams? Où les Saints vont littéralement pulvériser les Rams, demande David. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Allez, 19h24, nous sommes à 1h36 des rencontres de ce soir. On passe donc sur le thème de la semaine, les plus grosses surprises de l'histoire en playoff. Et je les ai mises, alors, sans aucun ordre particulier, même pas ordre chronologique. Je suis en train de vérifier ma fiche. Non. C'est totalement arbitraire, non arbitraire et anarchique. Niveau upset, le Super Bowl Seahawks-Broncos est pas mal. Le match était quasiment plié au premier quart alors qu'on s'attendait à un match serré, dit Léo. Alors clairement, c'était pas la folie pour l'avoir suivi en tribune. Et c'était le premier où on était accrédité. Et c'est, je garde un bon souvenir de la semaine. C'était génial d'être au stade, mais alors là, le suspense, c'était une catastrophe. On finit par les Bills contre les Raiders. Alors, je vais prendre. Moi, bon, je peux commencer par celui-là parce que Clément l'a cité. Les Giants contre les Pats en 2007, je ne vois pas meilleur upset. Alors, quand je vous donne l'année, c'est l'année où c'est joué le match. Donc, moi, je l'ai noté Giants-Patriots 2008. Évidemment, c'est la saison 2007-2008. Alors, Giants-Patriots 2008, 17-14. Les Patriots arrivent invaincus. L'indice qu'on pouvait se relever, c'est que les Giants étaient quand même l'équipe qui leur avait posé le plus de problèmes en saison régulière. C'était le dernier match de la saison régulière. Pas de victoire facile en playoff quand même pour ces Patriots, qui quand même pas, avait mar... si, avait commencé à marquer le pas. Et puis, alors avant de citer le helmet catch, qui est en effet probablement l'action qui est sans aucun doute l'action emblématique de ce match et qui est sans aucun doute une des actions les plus emblématiques de l'histoire du Super Bowl. Il y a quand même, moi je me rappelle vraiment précisément en regardant ce match, du premier drive qui m'avait impressionné. Même s'il ne se termine que par un field goal, les Giants prennent le ballon et bouffent les 10 premières minutes du match. Et là, je m'en rappelle, on avait dit clairement, ok, les Giants sont venus là avec un plan de jeu. Tom Brady va pas être beaucoup sur le terrain, en tout cas pas s'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Et New England va devoir être très 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 efficace. Et donc même si les Giants avaient eu seulement un field goal sur le premier drive, ces 10 minutes de possession, je trouve, avaient donné le ton. Et ça avait quand même été très très impressionnant. Et puis après, en effet, il y a ce helmet catch complètement délirant en fin de match avec Eli Manning qui échappe à la pression alors qu'il est tiré par le maillot, qui balance ça un peu... pas n'importe comment, mais voilà. Ce ballon capté sur le casque par David Tyree, qui ensuite qui est retombé dans l'anonymat quasiment aussi vite qu'il est devenu une star. voilà, donc c'est une action quand même assez incroyable, et c'est un Super Bowl assez incroyable. Je pense qu'en effet, c'est un des plus gros upsets de l'histoire. Les Patriots étaient quand même ultra favoris de cette rencontre. Ils avaient une attaque de feu, ils avaient Tom Brady, ils avaient un Randy Moss en fusion cette année-là. Ils avaient Wes Welker qui attrapait tout ce qui bougeait. Ils avaient encore certains de leur vieille garde sur la défense, avec Teddy Bruschi, etc. Et Javier Pastore le dit bien, Asante Samuel, qui lâche l'interception juste avant le helmet catch, sur l'action d'avant. Et bim, et plus rien. Tarz Velder qui dit c'était pas Manningham. Manningham, c'est le Super Bowl d'après la réception décisive de Manningham, le long de la ligne de touche. C'est pas la même, mais là c'était David Tyree. Donc c'est Patriots Giants 17-14 2008. Autre upset monumental, et dans ce cas-là, tiens, elles sont liées, j'ai presque envie de dire. Parce que avant d'être la victime d'un des plus gros upsets de l'histoire, les Patriots avaient donné un des plus gros upsets de l'histoire. Là, on est en 2002, c'est-à-dire saison 2001-2002. C'est le match qui lance la dynastie Patriots, mais c'est une énorme surprise. Tout le monde pense que les Patriots vont se faire ratatiner à l'époque. Les Rams ont la première attaque de la Ligue, ils ont 14 victoires en saison régulière. Leur différentiel sur la saison, c'est plus 230 points. Ils ont deux mecs MVP dans l'effectif avec Kurt Warner et Marshall Faulk. Je crois que c'est Marshall Faulk qui est MVP cette année-là, mais Warner avait été MVP l'année d'avant, l'année où il gagne le titre en 99-2000. Donc c'est vraiment une armada. Je me souviens, je crois que je l'avais déjà raconté dans une émission, il y avait un très bon caricaturiste du Denver Post, je crois, qui s'appelait Drew Litton, qui avait fait un très joli dessin où on voyait un mec avec le maillot des Patriots avec un petit filet pour attraper les papillons, et il y avait un avion de chasse avec le logo des Rams dessus qui passait, et l'idée c'était ça, c'était que les Patriots allaient essayer d'attraper un avion de chasse avec un filet pour les papillons. Et finalement, c'est un match qui se termine à 27 pour les Patriots, un match qu'ils ont complètement neutralisé. Il y a un pick 6 pour New England, et puis il y a zéro ballon perdu pour New England contre 3 pour les Patriots, pour les Rams, pardon. Il y a ce field goal en fin de match, une remontée du terrain tout en maîtrise de Tom Brady, qui est vraiment un des premiers épisodes de sa légende, avec Vinatieri qui marque le coup de pied de la gagne. Donc le début de la légende de Vinatieri, le début de la légende de Brady. Brady qui a que 134 yards hein, sur ce match à la passe. C'est pas encore le Brady machine à lancer de ce match de qu'on connaît maintenant. Pour la petite anecdote d'ailleurs, on s'en rappelle peu, mais Tom Brady a pas forcément qualifié à 100% les Patriots pour le Super Bowl, parce qu'on rappelle qu'en finale de conférence, il se blesse à la cheville en début de match, et c'est Drew Bledsoe qui joue une bonne partie du match et qui les aide à se qualifier. Mais c'est Brady qui joue le Super Bowl, c'est Brady qui va chercher le drive de la victoire. Donc voilà, premier épisode de la dynastie Patriots. Alors les supporters des Raiders pensent que ça se joue un poil avant avec la Tuck Rule, hein, le premier épisode de la dynastie Patriots. Mais en tout cas au Super Bowl, premier épisode avec une énorme upset. C'était en 2001-2002. Le geste de Bledsoe trop souvent oublié, ouais, dit notre ligue. Donc je vais revenir un petit peu sur d'autres équipes. Alors honnêtement, hein, les Patriots, ils sont souvent là dans les upsets, en bien ou en mal pour eux, quoi. Donc on va revenir un petit peu à 2011. 2011, il y a deux des plus gros upsets, je vais vous dire. Rien qu'au premier tour, il y a deux des plus gros upsets. Le premier, c'est évidemment Seahawks Saints. On parlait des Saints impliqués. Ils sont impliqués et ils sont impliqués contre eux. Les Saints sont champions en titre. Ils mènent 10-0 dans ce match. Ils mènent 17-0 dans le second quart-temps. Les Seahawks en face sortent d'une saison à 7 victoires, 9 défaites. Ça leur a suffi pour remporter leur division. Ils ont l'avantage du terrain puisqu'ils ont remporté leur division. Ils sont qualifiés pendant quasiment toute la semaine de pire équipe à jouer les playoffs parce que voilà, ils sont qu'à 7-9 parce que voilà. Mais en effet, Clément le dit dans les commentaires et j'allais venir, le Beastquake, la course de Marshall Lynch qui donne l'avantage à 3 minutes 22 de la fin, 41-30 pour les Seahawks. Énorme course de Marshall Lynch qui reste dans la légende, où il casse au moins 5 ou 6 plaquages, où il rebondit, où il finit en tombant dans la end zone à la renverse en arrière. Et ça donne donc 41-30 à 3 minutes 22 de la fin pour cette équipe. Et voilà, et c'est une énormissime surprise. C'est une énormissime surprise. La même année, mais dans l'AFC, et c'est pour ça que je disais que les Patriots sont souvent là. Patriots Jets. Au Divisional, le tour d'après, et les Patriots perdent 28-21 à domicile contre les Jets. Et c'est un match, je crois que c'est le match totem de cette époque-là pour les fans des Jets. Hein. Les Pats avaient gagné 45-3 en saison régulière. 45-3. Antonio Cromartie a traité Tom Brady de asshole dans la semaine avant le match parce que justement il estimait que Brady s'était moqué d'eux ou avait pointé vers le bord du terrain pour se moquer du banc après avoir marqué un touchdown dans ce fameux 45-3. La semaine avant, évidemment, quand les Jets passent le premier tour, on a Bart Scott au micro qui lâche le fameux can't wait quand on lui dit maintenant vous allez jouer les Patriots. Et donc, Et on est reparti. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, il a raison. Flo 07. Hop. Voilà. Hors antenne, le maillot de Brady. On est de retour. Donc, je disais que le Jets Patriots. Pour ceux qui comprennent pas, pourquoi j'ai balancé le maillot de Tom Brady en dehors de l'écran, c'est un running gag depuis que le fauteuil existe la saison dernière. À chaque fois qu'on met le maillot de Brady à l'antenne, il y a un bug technique. Donc bon, on va arrêter de mettre ce maillot. Donc, je disais, upset énorme des Patriots contre les Jets en 2011. C'était avec un Mark Sanchez et un Antonio Cromartie et tout ça, et c'était vraiment sympa. Grosse audience pour le fauteuil, c'est pour ça que ça plante. Non, c'est pas. Je pense pas que ce soit Google que ce soit YouTube qui plante. Alors, j'en étais où? Saints. Seahawks c'est fait, Patriots Jets c'est fait, Giants Patriots c'est fait, Rams Patriots c'est fait. Bon allez, encore un petit coup de Patriots. Celui-là, je vais pas vous donner tous les détails parce que vous le connaissez un peu, il est récent. 41-33 pour les Eagles, c'était évidemment le Super Bowl de 2018, saison 2017. 2018, les Eagles étaient évidemment outsiders de tous les matchs la saison dernière. En playoff, il y avait Nick Foles à leur tête. Dans la rédaction, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait mis sur le site. 13 votes à 4 pour les Patriots sur les pronostics avant le Super Bowl. Philadelphie a quand même été menée une seule fois dans ce match. C'était 33-32 dans le quatrième quart-temps. Mais la réaction a été impeccable. Ils n'ont pas craqué. Ils n'ont pas autorisé un autre tour. Et finalement, ils s'en sont sortis. Donc voilà, celui-là, c'est quand même un des upsets assez incroyables. Autre upset. Alors celui-là, je l'ai pris parce que je le trouvais plutôt sympa. Il implique deux de nos équipes de ce soir. Nous sommes en 2000-2001, alors c'est la saison 2000-2001, mais le match de playoff se jouait le 30 décembre, je crois, il se jouait même pas l'année d'après. Premier tour des playoffs en 2000-2001, et les Saints battent les Rams 31-28. On est en plein Greatest Show on Turf, alors ça n'a pas été une saison exceptionnelle hein, pour les Rams. Ils sont à peu près au même bilan que les Saints à ce moment-là. Mais c'est quand même le champion en titre, avec toujours cette armada, hein, Kurt Warner, Marshall Faulk, etc. Et en face, le quarterback des Saints, c'est Aaron Brooks. Aaron Brooks, qui est sur ce match à 16 sur 29, 266 yards, 4 touchdowns, 1 interception, alors que Kurt Warner, lui, est à 3 interceptions. Donc ça, c'est vraiment quand même la grosse surprise. Et les Saints sortent le champion en titre au premier tour des playoffs, c'était donc en 2000-2001. Les Chiefs, vous allez me dire, je n'ai pas parlé des Chiefs, et je n'ai pas mis les Chiefs dans les upsets. Et ben j'en ai trouvé un quand même, parce qu'on a eu les Rams, on a eu les Saints, et on a eu les Patriots. Il y a François qui dit Aaron Brooks, le joueur de basket de poche. Non, mais j'y pense aussi à chaque fois. Les Chiefs, je suis allé chercher beaucoup plus loin. Aujourd'hui, en préparant, je me suis dit, je vais faire que des contemporains, parce que je vais pas vous faire semblant d'avoir vu jouer Georges Blanda et machin. Mais il y en a quand même un. Alors là, on est un peu plus en mode histoire, parce que j'ai pas de souvenirs personnels. Et pour cause, j'étais pas né. C'est en 1970, le Super Bowl numéro 4. Entre les Chiefs et les Vikings. C'est vraiment en mode histoire, mais les Vikings dans ce Super Bowl sont favoris de 13 points. Les Jets ont gagné l'année d'avant pour prouver que l'AFC est légitime, mais à l'époque, c'est encore vraiment la NFC qui domine, où les grosses franchises sont posées. Donc, les Vikings sont favoris de 13 points dans ce Super Bowl. Les Chiefs n'étaient même pas premiers de leur division, ils étaient deuxièmes. Les Vikings ont un différentiel de plus 246 points sur la saison. Et ils sont à 12 victoires, 2 défaites. Et pourtant, 5 turnovers des Vikings, 151 yards au sol pour les Chiefs contre 67 pour les Vikings. Et ça fait victoire 23 à 7 pour les Chiefs au Super Bowl 4. Donc on rappelle d'ailleurs, hein, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais les Chiefs, ils en ont un titre. Donc voilà, victoire des Chiefs en 1970 contre les Vikings. Petite mention, on peut faire quelques mentions évidemment. Là, c'est toute équipe confondue. Moi, c'est vraiment un peu ce qui m'est venu à l'esprit. Broncos Packers 1998, c'est le Super Bowl remporté par les Broncos, alors que Brett Favre est MVP. Il y a 3 touchdowns de John Elway, 157 yards au sol de Terrell Davis, et c'est vraiment voilà. Je crois que c'est le premier titre de John Elway. J'espère que je dis pas de bêtises. Je sais plus dans quel ordre il est. Oui, parce que ça doit être un doublé pour les Packers, oui c'est ça, donc ça doit être le premier en effet pour Elway, et c'est, voilà, c'est un joueur qui n'y arrivait pas au Super Bowl, donc c'est vraiment un bel upset. Vikings Falcons en 1999, alors celui-là c'est une finale de conférence, et les Vikings étaient quand même à 15-1 en saison régulière, ça envoyait dans tous les sens avec Dante Culpepper, avec Randy Moss, avec Chris Carter, c'était une attaque de feu, ça se joue chez eux en plus. Ils sont favoris de 11 points, alors les Falcons sont pas des peintres, hein. Ils sont à 14 victoires cette année-là, mais c'est quand même une petite surprise, 30-27 pour Atlanta. Giants-Bills 91, c'est un Super Bowl, 20-19 pour les Giants, et celui-là, les Bills étaient tellement attendus en attaque, et ça va vous rappeler quelque chose. Il y a une équipe qui était tellement attendue en attaque, les Bills, qu'en face, il y avait Bill Belichick, coordinateur défensif, et il a monté un plan de jeu tellement bon que son plan de jeu est Hall of Fame aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on attend qu'il fasse aujourd'hui contre les Chiefs. Jets-Colts, 1969, 16-7, la garantie de John Hamatt, justement, qui met l'AFC sur la carte. Et puis, un petit Packers-Falcons de 2003, 27-7 pour les Falcons, ça se jouait à Lambeau Field, et c'est une victoire des Falcons menée par Michael Vick à Green Bay, ce qui était quand même une sacrée surprise. Michael Vick termine le match à 13 sur 25, 117 yards en touchdown, 10 courses, 64 yards, donc c'est clairement pas des statistiques faramineuses, mais il faut quand même remettre les choses dans le contexte. À l'époque, on flambe pas comme aujourd'hui à 500 yards par match.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
À l'époque, il y a 309 yards pour Atlanta en fin de match, 289 pour Green Bay. Donc voilà, ça vous situe un petit peu les choses aussi. Voilà pour les gros upsets de l'histoire NFL. Alors encore une fois, il y avait un accent mis sur les équipes qui jouent ce soir, puisque c'était quand même plutôt marrant. Je vous rappelle que le tournoi des All-Star Team est encore en cours, même si je réalise que j'ai oublié de mettre les sondages. Mais vous rejetterez un œil sur le site. Steelers Broncos et Cowboys 49ers sont encore en course dans le tournoi All-Star. Hop là. Oui, combien de finales de conférence pour les Patriots? C'est 8 de suite et ça fait 11 ou 13 au total. Des fois, je m'embrouille dans les chiffres, tellement il y en a. Donc, vos questions, n'hésitez pas. Mon meilleur souvenir NFL, Pensing God. Mon meilleur souvenir NFL. En tant que fan ou en tant que journaliste ou en tant que tout. C'est pas facile. Il y a plusieurs trucs. La course de Marshall Lynch dont on a parlé, ça reste un souvenir fort. Mon premier Super Bowl que j'ai regardé en direct entre les Rams et les Patriots. Il y a un truc que j'avais à l'esprit évidemment. Le helmet catch, c'est quand même un souvenir de fou. Le helmet catch, c'est un souvenir de fou. Et voilà, non, il y a plein de souvenirs. Il y a plein de souvenirs plutôt cool quand même. Il y a plein de souvenirs plutôt cool. Je vais essayer de remonter un petit peu. Je vais essayer de remonter un petit peu. Hop, vos commentaires, j'ai élargi la fenêtre parce que j'ai vraiment du mal à garder. Ça rescrolle automatiquement en bas. En fait, c'est un peu énervant. Je vais commencer par le bas. Hop là. Le butt fumble, dit Aurélien. Je crois pas que je l'avais vu en direct, moi, le butt fumble. Je suis plus sûr, mais je ne crois pas. Victoire contre. Non, mais il y en a. Le touchdown de Tim Tebow contre les Steelers, c'était du délire aussi. De Tebow pour Demaryius Thomas, c'était quand même du délire. Thomas, le site existe depuis quelle saison? Depuis 2007. Donc les Colts étaient champions en titre, et donc c'est la saison presque parfaite des Patriots. Comment dire? Ouais, c'est un grand souvenir, mais alors il a évolué hein, quand même, parce qu'il était sous une forme très différente. On rappelle quand même qu'à l'époque, on est en 2007, donc il existe, je sais plus comment je le mettais à jour, mais bon, j'étais tout seul à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait le forum. Le forum existe depuis le même temps que le site, et je suis assez fier qu'on soit un des derniers forums en France, quasiment, j'ai l'impression. Mais voilà, donc ouais, depuis 2007, et il a évolué petit à petit, il y a eu de plus en plus de monde, les émissions, ça a commencé en 2011. Donc on a fêté nos 10 ans l'an dernier. Les équipes préférées des chroniqueurs, dit Mathéo, je ne peux pas révéler ça. Moi, Bazinga, j'ai une question, pourquoi avoir donné les noms de National et American aux conférences? Alors c'était le nom en fait de l'X séparé, je crois que c'était le nom de l'X séparé, ouais, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui sont réunis. Enfin, il y a eu un merger, enfin une fusion NFL-AFL en 1970, si je ne dis pas de bêtises sur la date. Et donc c'est ça qui a donné le nom aux conférences, puisque ça devait être l'American Football League et la National Football League, et voilà. Ton meilleur souvenir de NFL, donc ça je crois que j'avais déjà dit. Je suis fan des Pats depuis Eagles Pats 2004, et ouais, je me lasse pas de les voir gagner. Je ne veux pas que cette époque prenne fin, même si c'est vrai que ça ferait du bien à la Ligue, dit les chroniques du Viking. Bah, pour l'instant, ça ne veut pas prendre fin. Donc ça ne veut pas prendre fin. Qu'est-ce que... Hop, je regarde s'il y a des points d'interrogation. Mettez bien des points d'interrogation en bas parce que ça me sert de repère. À titre individuel, ce serait pas Trent Dilfer le plus gros upset de tous les temps, dit Olivier. Ouais, après, il avait une défense tellement énorme autour de lui que... C'est aussi, hein. Hop, je remonte un petit peu. Hop, hop, hop. Bon, après, on a l'air d'avoir fait un peu le tour des questions. On va passer au match de ce soir. Alors, si on a fait le tour un petit peu des questions, n'hésitez pas à en mettre. Je redescends et hop là. Il y a Guillaume qui dit. Attends, j'avais cru voir passer. Ah bon, oui, alors là, il y en a encore plus. Il y en a encore plus. Guillaume, Alain, les journalistes accrédités ont-ils le droit à des choses gratuites comme la bouffe? Oui, la bouffe. La bouffe. C'est le principal avantage, clairement. Enfin, en dehors de l'accès. Mais oui, on a un truc sur TDA pour la bouffe et on aime bien tweeter des photos de bouffe. Je crois que je le faisais souvent quand j'étais en tribune de presse. Il doit y avoir des vieux trucs. Il y a même des articles de quand j'étais à Phoenix, je crois, où je mets des photos de pizza chaque jour. ou des trucs comme ça. Alors les pizzas c'était dehors, mais oui, on est plutôt bien nourri en général quand on est en tribune de presse. Après, non, des trucs gratos. Si, il y a des Super Bowls, on avait eu, je crois, à New York, il y avait des goodies. Mais je sais pas si c'était tant la NFL, je crois que c'était plus l'office du tourisme local qui essayait de faire un peu sa promo à chaque fois ou des trucs comme ça. Alors, hop. À quelle heure précisément le Pats Chiefs, dit General DX? Alors attendez, parce que j'ai l'impression de vous dire une énormité depuis tout à l'heure. Voilà, si, minuit 40. Minuit 40, pas minuit 30, minuit 40, à 10 minutes près. The catch de OBJ, oui, c'est une bonne remarque aussi. Le Hail Mary de Rodgers contre les Cardinals, un de mes premiers gros frissons en NFL. Je lis vos commentaires là. Hein. La passe de Flacco contre Denver. Il y a Loïc qui dit il y a eu 5 versions du site. Bah, dis donc, Loïc, t'es encore plus au courant que moi, j'avoue, j'ai arrêté de compter. Hop. Alors, aller à Hooters aussi, non, dit Aurélien. Alors, je sais pas pourquoi c'est lié Hooters, mais oui, je me rappelle que je crois. Est-ce que j'ai mis ça dans les articles à l'époque? Ouais, c'est possible. Le Super Bowl le plus chiant, Broncos Panthers, Seahawks Broncos, Oakland Bucks, voire Ravens Giants. Le Broncos Panthers, il était bien bien chiant. Le Seahawks Broncos un petit peu. Oakland Bucks, il était dur aussi. Oh là là. Ouais, ils étaient tous très très durs. Hein. Tarsvelder, la question. Alors, je vais vous dire encore une fois, c'est perso, hein, mais le Seahawks Broncos, moi j'avais l'excitation d'y être pour la première fois, donc voilà, ça calme le côté que c'était pas très bien. Le Broncos Panthers, à Santa Clara, il y avait le soleil sur la tribune, à la fin je cuisais, c'est un peu dur. Justement, il y a Guillaume qui demandait qui avait fait le Super Bowl à Santa Clara. C'était moi. Donc voilà. Thomas, qui était avec moi depuis plus longtemps, Raphaël, Greg ou Raoul? C'est Raphaël, parce que Raphaël il a fait directement l'émission. Raoul il a écrit avant de faire l'émission. Ça doit se jouer à pas grand-chose, mais je pense que c'est Raphaël, ouais, Raphaël et Camille qui étaient là pour la toute première de l'émission en 2011. Je pense que le Broncos Panthers, ça a dû être Lucas. Oui, ouais, Jules Poète. Ah, si ça a été ton premier Super Bowl, le Broncos Panthers, en effet, si tu es resté, c'est que tu aimes ça. Malheureusement, tu es nommé head coach d'une équipe, tu peux prendre n'importe qui en coordinateur offensif, défensif. Qui prends-tu? Question de Le Toutoun. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit coordinateur? Parce que sinon, j'aurais pris Vic Fangio par exemple, mais il vient d'être embauché, donc je suis un peu coincé. Freddy Kitchens, il vient d'être embauché, je l'aimais bien, il me faisait rire. Oh, c'est pas facile du coup. C'est pas facile. Ouais, là je sèche parce que tous mes coordinateurs préférés, ils ont été embauchés en fait. Donc ouais. Vous allez au Super Bowl cette année, si oui, qui y va, question de Zabrak57. Oui, on l'a dit, Grégory embarque pour Atlanta, si on peut dire ça comme ça. Hooters, c'est pas payé par la Ligue, dit Loïc. Oui, non, Hooters, c'était sur nos deniers personnels. J'ai découvert la NFL avec le Broncos Panthers, dit Théo. Ah ouais, c'est dur. C'est dur. Ah, Ron Marinelli, c'est bien, ouais. Bertrand, pour la défense, c'est pas mal, en effet. C'est pas toi qui avais dit que les Super Bowls ennuyants étaient dans les villes touristiques et inversement, notamment pour 40 et 50, dit France Max. Oui, c'est possible. Oui, c'est. Bah oui, c'est ça, parce que Phoenix, qui est pas du tout une ville touristique, pour le coup, ça, je peux vous l'assurer. C'était pas ennuyeux le match. Et en effet, à San Francisco et New York, les matchs étaient pas ouf, mais heureusement, j'avais profité de la semaine. Alors, j'étais coach les chroniques du Viking. J'étais coach de flag football à l'époque du Super Bowl. Seahawks Panthers va faire aimer le foot US après ça. Hop là. Alors, il y a Porzingod qui dit qu'on le retour du podcast sur le basketball. Pour l'instant, c'est pas prévu. Premier Super Bowl, Ravens 49ers. Je comprenais rien, mais il y avait une rivalité entre frères. Un match était pas mal. Dit Olivier, il était sympa celui-là. C'était pas mal ça. Thomas qui dit oui, le projet qui était à l'époque plein d'ambition est tombé à l'eau, les London Marmites. Mais on attend. Zabrak, est-ce que je suis plutôt Anakin ou Luke Skywalker? Je suis plutôt Anakin. Ouais, je suis plutôt Anakin. J'ai de l'affection pour Anakin. Qui va choper le plus gros contrat cet été entre Goff et Vance? Ils peuvent déjà être prolongés. J'avoue que les contrats, c'est pas mon gros gros fort. Ils doivent pouvoir être prolongés en effet. Ouais. Je ne sais pas, mais Vance, il faudrait qu'ils soient en bonne santé. Le Super Bowl Giants Patriots de 2011-2012 était génial, ça oui. L'offensive coordinateur des Cowboys est viré, c'est ce que c'était un fusible Tarnsvelder. Oui, bah a priori, oui, c'est toujours comme ça que ça commence. On a aussi eu un Steelers Seahawks qui était moche. Ah oui, le Super Bowl XL, je me rappelle du logo. Le Super Bowl XL, ouais, il n'était pas foufou. Il n'était pas foufou, clairement. Premier Super Bowl Giants Pats 2008, Hugo, bon là t'as eu de la chance. Premier Super Bowl Seahawks Steelers, Guillaume. Premier Super Bowl, celui à Miami des Saints pour Porzingis, c'était pas mal ça. C'était pas mal. Avec ce pick 6 à la fin, oh, Loïc qui se moque pour un acquis d'un hit send. Ouais, mais bon, il était jeune. Il était jeune et amoureux. Premier Super Bowl Saints Colts. J'ai un de mes élèves qui était fan des Bills quand ils nous ont fait tous ces Super Bowls perdus durs. Ouais, en effet, c'était pas facile. Où verrais-tu Antonio Brown? Alors, bah, très sincèrement, j'ai fait un article sur le site. Je vous invite à aller consulter. On a mis les destinations potentielles. Je crois à peu près à tout ce que j'ai écrit. Enfin, je crois à ce que j'ai écrit, je veux dire. Mais pour moi, tout est potentiellement faisable dans ce que j'ai écrit, quoi. Quel était le problème de Adam Gase finalement, demande Richlo. Alors, si on parle de ses yeux, j'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment. Voilà. Pierre, Foles va où l'année prochaine? Pareil, je vais faire un papier sur le site, promis. Je vais analyser ça. Super Bowl XL, la reverse pass suave, le match, clairement, elle était pas mal. Elle était vraiment pas mal. Cette petite passe de Anton Rendelel pour Heinz Ward, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était vraiment fun, ouais. Il y avait au moins cette petite passe quand même qui était sympa. Super Bowl 50, depuis, je suis un gros fan d'Itrayon et qui doit jouer. 49ers Broncos 90, et ouais. Kirk Cousins rend l'argent au DMS. Bon, il y a des. Alors, qu'est-ce que je pense de Goff, dit Kevin du 44. Et vous savez quoi, on va parler un petit peu quand même. On va parler un petit peu des affiches du soir aussi, quand même. Qu'est-ce que je pense de Jared Goff? Les Saints, tête de série numéro 1. Les Rams, tête de série numéro 2. C'est à 21h. Jared Goff, justement, il va peut-être être le facteur X parce que les Saints sont forts contre la course. Il va falloir tenir. Sheldon Rankin, c'est pas là, on l'a dit, ça va être compliqué. Mais ils sont quand même faibles contre la passe, en théorie, en tout cas sur la saison régulière. Ils ont fait, il y a eu du mieux hein, la semaine dernière, avec notamment un bon Marshon Lattimore. Mais s'ils arrivent à bloquer le sol, pression sur Jared Goff. Donc on aura plus de réponses, clairement. Les Saints autorisent un tout petit peu moins de 17 points. Ils sont à 16,9 points autorisés par match depuis la semaine 7. Donc à partir de là, en théorie, ça défend quand même dur. S'ils arrivent à maintenir ce niveau-là contre le sol, on aura un vrai test de Jared Goff, j'en suis assez sûr. Voilà. Est-ce qu'il va s'en sortir? On aura les réponses à ce moment-là. De l'autre côté, il y a une vraie interrogation aussi quand même. Michael Thomas a collé 200 yards aux Rams sur le match de saison régulière qu'ils ont joué l'un contre l'autre. Akib Talib n'était pas là, donc il y a quand même une nouveauté là-dedans. Les linebackers des Rams vont être ultra importants pour contenir Alvin Kamara, pour contenir un petit peu... ces jeux intermédiaires. Il y a Samson Ebukam notamment qui aura un rôle important. Donc voilà, mais une des intrigues, ça va être de réussir à mettre la pression parce qu'il y a deux très bonnes lignes. Alors il y a une très bonne ligne des Rams et il y a une bonne ligne des Saints plus un Drew Brees qui se débarrasse très vite du ballon. Ça va être, voilà. Déjà, il va falloir réussir à mettre de la pression et surtout, encore une fois, il va falloir imposer son jeu au sol. Il va falloir réussir à imposer le rythme de la rencontre. On l'a dit, c'est vraiment c'est vraiment un cliché, mais ça marche toujours en playoff. Et vous êtes deux à le dire, Jules Poète et Stanislas, va-t-on enfin voir un grand Aaron Donald? Et c'est le match pour Sue et Donald. Clairement. Clairement, ces deux-là aussi, ils vont être surveillés. Que vont faire Ndamu Kongsu et Aaron Donald? C'est un des facteurs X de ce match. S'ils arrivent à complètement casser la poche de Drew Brees et à casser un peu le jeu au sol, même à casser la ligne, ça va être quelque chose d'important. Il y a El Waradi qui précise que les Rams ont changé de schéma de man à zone dans lequel Peters a des meilleures prestations. Il y a aussi ça. Attention les pénalités sur ce match, dit Tarz Velder. Les chroniques du Viking qui dit je pense que la principale question c'est est-ce que Gurley va réussir à porter l'attaque seul. Encore une fois, Jared Goff a montré sur certains matchs qu'il pouvait être très bon. Il a été bon contre les Saints, il a été bon contre les Chiefs quand ils font cet énorme match en saison. Donc voilà, il y a quand même énormément d'intrigues. Il y a Loïc qui le fait bien remarquer aussi sur le chat. Les Saints sont capables de beaucoup courir vers l'extérieur et d'éviter Donald Essou. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de choses... Il y a quand même beaucoup de paramètres. Ces deux attaques qui sont quand même très très polyvalentes. Donc, à voir qui va réussir à sortir un plan de jeu costaud. Voilà. Talib et Gurley sont-ils à 100% demande Stanislas. Gurley, officiellement, il est sorti du rapport des blessures. Donc, il est censé l'être, en tout cas. On sait que tout le monde pipote un peu à cette époque-là sur, en NFL. Mais ça va être un match franchement, franchement passionnant. Je vous l'ai dit, les Saints défendent bien quand même depuis plusieurs semaines. Mais il n'y a pas de dynamique qui se dégage vraiment sur ces deux équipes, qui ont démarré très très fort la saison, qui ont eu des petits moments de moins bien. Est-ce que les Rams, quand même, après la semaine de repos et le match énorme contre les Chiefs, ont eu un petit peu de moins bien? Les Saints n'ont pas toujours été d'une redoutable efficacité sur les dernières semaines. Donc c'est un match incertain à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'il va y avoir une question de rythme, il va vraiment y avoir une question de pression. Il va y avoir beaucoup de points du coup dans ce match, probablement plus que celui des Pats, les chroniques du Viking. Je suis même pas sûr de ça, honnêtement. Ça peut justement être un match fermé si les défenses et les lignes arrivent à prendre un petit peu le pas. Alors je dis fermé au niveau de ces équipes, c'est-à-dire autour d'une 25aine de points. Mais voilà, une bonne question. C'est une bonne question d'Eloir Indy qui dit, imaginez si Cooper Kupp ne se blesse pas et est titulaire ce soir, ce que ça aurait changé. Il y aurait clairement eu un peu plus d'options. C'est vrai que les Rams sont pas un tight end dominant non plus, donc Cooper Kupp joue aussi c'était pas la valve de sécurité, mais il était là aussi sur des tracés courts et des choses comme ça, tout en apportant aussi autre chose. Donc voilà, il y a vraiment des intrigues. Encore une fois, il y a des absences en plus côté Saints avec Sheldon Rankins, avec un Ben Watson qui est peut-être pas à 100%. En fait, il avait l'appendicite. J'ai dit une énormité tout à l'heure sur son épaule. Je m'embrouille dans toutes les blessures. Mais encore une fois, avec l'enjeu, on a vu que le match contre les Eagles, par exemple, n'a pas été un match à gros scoring la semaine dernière. Donc tout peut être un peu plus serré que ce qu'on pense. Attention là-dessus. Mais ça va être un beau match et il y a Guillaume qui dit McVay et Payton, on parle du duel des coachs. Clairement, il n'y en a aucun des deux qui a peur, il n'y en a aucun des deux qui aura peur de prendre des risques. Ça va jouer des quatrièmes, il y aura peut-être des feintes, il y aura peut-être des conversions à deux points. Enfin, ça va être un très très beau match, donc franchement ça peut être vraiment sympa. Vous êtes plusieurs à demander combien de temps on fait. Alors normalement c'était 19h-20h, il est 20h-3, vous vous doutez bien, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Donc on continue, on voit quand on arrive au bout ou que le téléphone s'éteint. Donc voilà, pour le match Patriots Saints, pardon, Rams, vous avez à peu près les enjeux. Chiefs, Patriots, minuit 40, celui-là ça va être tard. Affiche ultra glamour, festival offensif en saison régulière. Et là, ça va être énorme. Alors, beaucoup de choses ont changé aussi, les deux équipes se sont jouées en saison régulière, ça a fait 43-40 pour les Patriots. Kareem Hunt n'est plus là d'un côté, Josh Gordon n'est plus là de l'autre, les Patriots sont bien plus solides en défense depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'ils peuvent tenir les Chiefs? C'est toujours une grande question. J'ai envie de dire que quand on parle d'attaque de ce niveau-là, en général, on ne verrouille pas, on ralentit. On va essayer de ralentir les Chiefs. Stephen Gilmore, évidemment, va être la star de la couverture, mais David McCourty, on l'a dit, va avoir un rôle à jouer, notamment sur Travis Kelce. Il y a quand même quelque chose, il y a un Tyreek Hill qui bouge énormément, donc c'est dur d'imaginer Stephen Gilmore rester sur lui, donc il va y avoir de la pression sur les autres aussi. Ça va être très intéressant, et on l'a dit dans l'émission preview de jeudi, comment Bill Belichick va aborder ce match défensivement, ça va être vraiment une clé. Comment, quel plan de jeu, qu'est-ce qu'il va concocter, qu'est-ce qu'il va mijoter pour que sa défense tienne le coup. Ça va vraiment, vraiment être quelque chose de passionnant. Alors oui, c'est tard, mais franchement, ça peut valoir le coup et ça risque de valoir le coup de rester debout pour ce match. Évidemment, si vous bossez demain ou si c'est vraiment pas possible, je ne devrais pas vous dire ça, mais si vous regardez pas demain, ne venez pas sur le site. Fermez Twitter, fermez Facebook, fermez tout, et faites-vous un petit replay sympa en rentrant du boulot demain soir. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais voilà, ça va être... Les Patriots sont 7e sur les points encaissés cette saison. Les Patriots sont 7e sur les points encaissés cette saison, donc ils ont du potentiel, ils ont un grand coach défensif. Encore une fois, je vous l'ai dit, Bill Belichick, il a un plan défensif qui est au Hall of Fame pour ce qu'il a fait. Alors c'est loin, mais c'est un esprit défensif qui peut s'adapter. Donc, il peut faire quelque chose, et ça va être vraiment une des grandes intrigues de ce match. De l'autre côté du ballon, les Chiefs, statistiquement, alors, Les Chiefs, en fait, c'est une énigme aussi. Hein. En saison régulière, c'est 27e à la course, 31e contre la passe. Donc, mauvaise défense. Sauf que c'est un 0 sur 9 autorisé sur 3e tentative aux Colts. 89 yards, je crois, pour les Colts en première mi-temps. Une défense qui a suffoqué l'attaque d'Indianapolis. Un pass rush qui était là. Un Chris Jones qui est très fort sur les derniers matchs. Un Eric Berry de retour pour ce match. Donc honnêtement, c'est vraiment compliqué de savoir quelle défense des Chiefs on va avoir. C'est très compliqué de savoir quelle défense des Chiefs on va avoir. Je peux pas vous dire, je suis pas devin, j'ai pas la science infuse, je suis pas omniscient. Donc c'est une énigme aussi. C'est vraiment une énigme aussi. Et donc c'est pour ça. Alors après encore une fois, on s'en fait pas pour les attaques en général. Il va falloir mettre la main sur le rythme du match, réussir quelques coups défensifs, pourquoi pas aller ralentir. Mais voilà, c'est évidemment deux équipes majoritairement offensives. Les attaques sont meilleures que les défenses dans ce match. On a deux quarterbacks qui ont réalisé. On a le MVP en titre, hein, quand même, Patrick. Voilà. On a le MVP en titre, Tom Brady, et le prochain MVP, très probablement, Patrick Mahomes. Donc, c'est pas non plus. C'est pas Joe Clampin, quoi, au poste de quarterback. Donc, évidemment, on s'en fait pas pour les attaques. Il va falloir mettre la main sur le rythme de ce match. Et ça va être une superbe, superbe opposition. Alors, il y a Hugo qui demande au sujet du blackout pour éviter les résultats. Vous pouvez éviter le titre qui spoil pour le podcast, histoire de pouvoir quand même aller sur YouTube. Alors, je suis désolé, Hugo, mais malheureusement, c'est un peu. On est bien obligé de mettre des titres explicites. Parce que là, je vois pas trop ce qu'on pourrait titrer par les finales de conférence, mais. Enfin, le débrief des finales de conférence, mais faut bien qu'on tease un peu, donc je suis désolé. Blackout de YouTube aussi. Mahomes, je le souhaite de ne pas être MVP s'il est présent au Super Bowl, dit France Max. Oui, c'est vrai que les MVP perdent pas mal les Super Bowls. 12 choix pour les Patriots l'année prochaine, il y a un petit côté de l'année ou jamais pour les Chiefs, non. Oh, quand même. Hop. Alors, donc il y a pas mal de choses. Un petit. Pourquoi le nom. Alors, c'est une bonne question, ça, Christ. Alors, je vais remonter un petit peu. Bah ouais, je suis désolé Hugo, je sais. On peut pas couper juste les notifs de YouTube. Normalement. Est-ce que Joe Clampin est meilleur que Blake Bortles, dit Coro Coppels? Alors, je vais revenir à vos questions juste avant des petits pronos. Les pronos, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai mis dans l'émission, parce que comme j'essaie de jouer tactique pour remonter mon retard sur Raoul, je ne sais plus. Alors, je vais vous donner des pronos comme ça, exclu émission. Ok. Rams Saints. C'est dur, c'est très très dur. Moi je pense que c'est vraiment du pile ou face sur les deux. Chiefs et Rams, Alain me dit Raphaël. Donc j'ai donné Chiefs et Rams. Ah, j'ai mis Rams et Pat, me dit l'envoyant. Alors je sais plus, dites-moi. Dites-moi. Donc j'ai mis les Chiefs. Écoutez, ça me va. Je vais jouer le changement de génération et je vais jouer les Rams dans le premier. Parce que Aaron Donald, parce que les Saints n'étaient pas ultra convaincants sur le match contre les Eagles. Donc je vais dire les Rams. Et dans l'autre, je vais dire les Chiefs. Parce que c'est à domicile, parce qu'il y a bien un moment où il faut qu'il y ait une passation de pouvoir. Pourquoi pas ce soir? Évidemment, je ne serais pas étonné que ce soit les Pats et les Saints qui gagnent. Voilà. Mais après, il y a quelqu'un qui dit, ouais, qui parle d'affiches du Super Bowl. On a fait un papier sur le site aussi là-dessus. C'est que des superbes affiches. Quoi qu'il arrive, c'est des superbes affiches. Saints Patriots, c'est énorme. Brady Breeze, Sean Payton, Belichick, etc. Saints Chiefs, c'est énorme parce que bah, Breeze Mahomes, Andy Reid, Sean Payton, etc. Rams Chiefs, c'est le passage de témoin. Et Rams Patriots, c'est la revanche de celui de 2002. Donc franchement, c'est assez énorme. Donc quoi qu'il arrive, honnêtement, tout le monde gagne ce soir. En tout cas, nous, on gagne, quoi qu'il arrive. Donc, je vais passer. Alors, je vais remonter un petit peu vos questions. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord faire les cotes, et ensuite, on fait vos questions. Hop là. Alors, la page se recharge, et je cherche ma petite ardoise. Alors, une heure à parler non-stop, je ne vais pas vous cacher, j'ai la gorge sèche. Donc, y a des cotes qui sont... Je vous ai dit que c'était un pile ou face. Bah, regardez, on va faire un combiné ultra simple. On va faire un combiné ultra simple, c'est que je vais jouer les deux outsiders. Parce que c'est vraiment, vraiment pas un résultat qui m'étonnerait et que ça fait des bonnes cotes.
2-25, dans un pile ou face comme ça, honnêtement, hein, les Patriots sont outsiders. Est-ce que vous pouvez souvent dire ça? Non, non, les Patriots sont à 2-25 et les Rams sont à 2-30. Franchement, franchement, hein, pour 10 euros misés, ça nous fait un combiné à 51 euros. Oh, qu'est-ce que j'écris mal? À 51,75€ pour le combiné. Donc voilà, mais encore une fois, vous pouvez jouer les outsiders. C'est du pile ou face. Et je vois d'ailleurs que sur Unibet, les Patriots sont beaux être outsiders. Ils ont été joués par 56% des parieurs. Donc ça veut dire qu'ils sont favoris pour les... En tout cas ils attirent le plus grand nombre de paris. Donc ça, c'est quand même à noter. Et puis, si vous aimez jouer les marqueurs de touchdown, on peut regarder un petit peu ce qui va se passer dans ces matchs. Si vous voulez, alors, évidemment, rien n'est sûr. N'oubliez pas que rien n'est sûr. Jouez de manière raisonnable. Il n'y a pas de... On vous le répétera jamais assez. Mais honnêtement, si vous voulez des cotes qui sont presque moins YOLO que jouer sur les vainqueurs des matchs, parce que c'est très incertain, et pourquoi pas des marqueurs de touchdown, et là, on en a deux dont on a beaucoup, beaucoup parlé, et qui ont exactement la même cote, parce que pour gagner, mieux jouer les petites cotes, des fois, c'est Alvin Kamara et Todd Gurley. Hop, Todd Gurley 1,48, Alvin Kamara 1,48. Voilà, ça c'est un peu plus raisonnable, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas aussi à regarder de ce côté-là. Il y a CJ Anderson qui est à 2,15, il est pas mal, hein, CJ Anderson, dans le genre bulldozer pour finir s'ils arrivent en red zone. Hop, CJ Anderson. Oh, j'écris mal. Je crois que Unibet va me demander de changer de système d'écriture l'année prochaine parce que c'est une cata. CJ Anderson est à 2,15. CJ Anderson est à 2,15. Oui, j'écris pas très bien. Il y a quelqu'un qui nous parlait de Sonny Mitchell. Je regardais la cote. Il est à 1,63. C'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal aussi. Sonny Mitchell à 1,63. Hop là, Sonny Mitchell, 1,63. Voilà pour les marqueurs de touchdown. Vous en avez quelques-uns là. C'est pas mal. Il y a des bonnes cotes. Michael Thomas, c'est pas mal aussi. Ouais, non, n'hésitez pas à regarder. Il y a vraiment pas mal de bonnes cotes sur les marqueurs de touchdown. Quelques questions, et puis on va se dire au revoir. Envoyez vos questions si vous avez des questions, c'est maintenant. Et on termine là-dessus l'émission. Prends un bout de fromage et ton verre de Chablis pour t'hydrater. Alors, je ne bois pas d'alcool à l'antenne, mais j'ai un verre d'eau devant moi. Donc merci, Sifflo, tu m'y invites. Voilà. Hop là. Par contre, je mange jamais à l'antenne parce que ça fait saliver encore plus. Bon, c'est une catastrophe. Donc, a-t-on eu des finales de conférence avec des équipes aussi fortes en attaque? Je n'ai pas souvenir du Tars Velder. Je crois que quelqu'un a répondu dans le chat. Je crois même que c'était Raphaël. En effet, c'est les 4 meilleures attaques de la Ligue. C'est du jamais vu. Au final, ta plus grosse surprise de la saison, demande Pierre. Hop. Alors, la plus grosse surprise de la saison? Ah, c'est une bonne... Les Browns, je sais pas, il y avait des atouts. Au final, ils ont fini par les cultiver. Je regarde un peu qui était en playoff. J'attendais peut-être pas Houston avec autant de victoires, mais ça veut pas dire qu'ils sont beaucoup plus solides pour autant. Les Seahawks en playoff, pour moi, c'est une belle surprise. Je pensais pas qu'ils seraient aussi bien coachés, je vais pas mentir. Les Bears, que je voyais en progression, mais peut-être pas à ce niveau. Je regarde parmi ceux qui ont fait les playoffs, hein, pour parler de vraies surprises quand même. Non, ça me paraît déjà pas mal. Et le retour d'Andrew Luck si rapidement à un tel niveau, et les Colts pardon, qui sont quand même très très forts très rapidement. Ouais. Les Chiefs peuvent-ils faire une surprise en défense, dit Stanislas? Ce sera une des clés de ce match, clairement. Surprise, ouais, voilà, les Colts, les Seahawks, c'est un peu ce qui revient. Clément, franchise la plus maudite, Browns, Lions, Cardinals, Vikings. Lions, c'est pas mal quand même. Cardinals aussi. Mais même les Cardinals, ils ont joué un Super Bowl. Les Vikings aussi. Donc ouais. Les Jaguars, en surprise négative, vous parlez. Ouais, les Bills se sont bien battus par rapport à ce qu'ils avaient bien vu, Bertrand. Les Jaguars, clairement, ça a été une des pires. Mais pour moi, c'était pas une surprise en l'occurrence. Pour une fois, j'avoue que j'avais tapé. Enfin, sur ce coup-là, j'avais tapé à peu près juste en pré-saison. Je pensais vraiment qu'ils allaient redescendre sur Terre, et c'est ce qui est arrivé. Et quelqu'un disait en surprise négative, les Steelers, clairement, avec le matos qu'ils avaient, ils devaient être en play-off, en théorie. Les Browns, il y a beaucoup de Browns, quand même, qui vous ont surpris. Bon. Les Vikings ont déjà gagné un Super Bowl, dit Tarsvel D'air? Alors là, tu me poses une colle. Oui, bah peut-être. Tu vois, j'ai pas les 53 en tête des fois. Parce que j'étais resté focalisé sur le sur celui perdu contre les Chiefs dont on a parlé. Ben non, je vois pas de Vikings dans les vainqueurs du Super Bowl. Non, j'ai juste devant les yeux là. Non, ils ont perdu celui contre les Chiefs. Ils ont perdu la finale de. Ils en ont perdu 3, les Vikings d'ailleurs. 4. Ah, ils ont perdu quelques-uns quand même. 1, 2, 3. Le quatrième, j'ai peut-être compté deux fois la même ligne. Ils en ont perdu au moins 3 des Super Bowls, les Vikings. Donc clairement, c'est pas une des franchises les plus vernies. Pas de Super Bowl, ouais, 4 pour les Vikings, voilà. Merci John et Bleu pour les merci. Le rookie qui m'a le plus impressionné, pas mal, comment dire, Saquon Barkley, parce que j'ai critiqué le choix des Giants, et je pense toujours qu'ils auraient dû prendre un quarterback, mais c'est un rookie incroyable. Baker Mayfield a été incroyable. Darius Leonard en défense, Derwin James, on avait fait le top la dernière fois, il y avait pas mal de choses. Merci à Cameron qui dit, c'est pas une question, je tiens à vous dire que je vous suis depuis le wildcard de l'an dernier, et que je vous suis au quotidien, merci à toi pour une bonne continuation, ça fait plaisir. Je te dis en regardant la caméra, c'est mieux, merci. Y a-t-il eu des Africains qui ont fait carrière en NFL, demande Mouamadou. Il y a des joueurs aux origines africaines. Alors après, je voudrais pas dire de bêtises sur les noms. Il y avait Amobi Okoye qui était d'origine nigériane, mais qui n'a pas fait une énorme carrière ces dernières années, mais qui avait été choisi haut. Amobi Okoye, non. Oui, c'est ça, qui est nigérian. Et qui a quitté la ligue en 2014. Il avait été 10e choix de la draft quand même. En 2007 par les Texans, et il n'avait pas vraiment réussi une grande carrière. Il a terminé avec les Cowboys en 2014, mais sans vraiment percer. Jay officiellement, il est britannique. Alors après, voilà. Ziggy Ansah, ouais. Javier Pastore a raison, et Ziggy Ansah qui fait quand même une bien meilleure carrière qu'Amobi Okoye. Je pensais à Okoye parce qu'il avait été... il est ghanéen, Ezekiel Ansah, ouais. Donc... Et lui, il a été choisi haut, hein, d'ailleurs, aussi. C'était le 5e choix en 2013, ouais. Donc, choisi très haut. Tamba Ali, dit Charlie Kerr, bien vu. Bien vu, bien vu. Attendez, je fact-check en même temps. Ouais, il vient du Liberia, Tamba Ali. Il est né au Liberia. Donc, voilà, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, en tout cas. Je regarde un petit peu. Qui pour la coupe de Madden l'an prochain? Voilà. Je ne saurais vous dire. Ah bah, est-ce que... c'était qui cette année déjà? Ah, Antonio Brown. Oui, ah ouais, là, la Madden Curse, elle a été pas mal. Est-ce qu'ils vont pas tenter un Patrick Mahomes ou un Todd Gurley ou un frapper un petit peu le facteur jeune, quoi? Ce serait pas mal. Allez, d'autres questions? Et puis, une fois qu'on arrive... Ah oui, Ozil Meniora, c'est vrai. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller manger, dit Loïc? Oui, bah oui, on va pas tarder, là, il est 20h15. Il est 20h15 et le dispositif a tenu le coup. On est à 46 minutes du match. Il est 14 exactement sur mon chrono. Écoutez, si vous... Alors, les Chiefs et les Rams vont-ils s'inscrire dans le temps? Ouais, c'est un feu de paille, dit Face 69. Ils sont quand même bien... Alors, je sais pas quel âge a Andy Reid et quel âge ont ses artères. En tout cas, on va dire que pour les Rams, vu qu'ils ont un coach qui est pas tout à fait vieux, ils ont le temps. Clairement, ils ont beaucoup de jeunes joueurs, mais pour les Chiefs, oui, tant qu'on dirige là et dirige cette équipe comme ça, clairement, c'est quand même un très 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 bon coach, on dirait. Il y a Zabra qui dit les Rams sont très équipe de mercenaires. Ouais, mais ils ont quand même construit une base très solide. Ils ont en effet pris quelques joueurs où ça donnait un côté mercenaire pendant l'été dernier, mais ils étaient déjà en playoff l'an dernier sans ce côté-là. Donc voilà. Zabrak, mon consultant préféré en ancien joueur à la télé US. J'avoue que c'est pas un truc auquel je fais super méga attention.
Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous posent des questions sur les consultants US, etc. Alors je sais pas si c'est parce que je suis concentré ou qu'en général, quand je les regarde, j'écris en même temps ou je dois écrire le résumé de match et je prends des notes, etc. Mais je fais pas hyper gaffe. Je fais pas hyper gaffe, mais c'est vrai que Tony Romo fait du bon taf. Alors, roller derby, oula, qu'est-ce que. Ah oui, roller derby, oui, non, mais non, Coppel s'est dit qu'il va regarder le derby, je suppose qu'il parle du Lyon-Saint-Etienne. Alors, hop là. Allez, si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vous laisse 10 secondes pour mettre des questions. 10, 9, 8, 7, 6, 5, je sais plus compter sur mes doigts, 4, 3, 2, 1. Et ben voilà, je sens que vous avez tous envie d'aller manger. Allez, on va se quitter là-dessus. On va aller au fromage. On va aller au fromage et regardez ça. Alors, j'ai un doute, je me demande si je l'ai fait cette année. Mais il n'y a jamais de doute à avoir. Et quand je vous disais que ça pue, hein, là, ouf, la vache. Mais c'est que du bonheur. Alors, c'est un des derniers en plus. Le fromager m'a assuré que ça vient d'un des derniers où c'est moulé à la louche, à la main, etc. Bref, c'est un roquefort. C'est un roquefort. Attendez, j'essaie de le brancher, mais pas le foutre non plus, voilà, par terre. Regardez ça comme c'est beau. Avec un peu de pain aux figues, un petit peu de confiture, mamma mia. Un bon roquefort, il n'y a que ça de vrai. Je vous le dis, ah bah Chronique du Viking, c'était ton premier fauteuil. Et bah écoute, merci à toi de nous suivre et merci à tous ceux qui nous découvrent chaque semaine. Et je vous le dis, on fera un petit fauteuil sympa pour le Super Bowl, bien évidemment. On fera un top 10 des fromages, je tiens à le dire. Je tiens à le dire. On fera un top 10 des fromages et spoiler alerte, le Roquefort sera dedans. Il n'y a pas de souci là-dedans. Voilà. Et bah écoutez, il vous reste 1 h 20, non, 33 minutes. Putain, je sais plus compter. 1 h 33 minutes. Non, 1 h 43 minutes. Voilà. Ah, je vais y arriver. Il ne reste que 43 minutes, pas 1 h 43 minutes. Il reste 43 minutes. Donc, avant le coup d'envoi, c'est l'heure pour vous d'aller manger un petit bout pour être prêt, fin prêt pour le match. Allez manger un petit bout, allez faire pipi. Et comme ça, après, vous êtes paré. 21 h, c'est rendez-vous avec les Saints et les Rams. Ça se passe à New Orleans. Minuit 40, ce sera ensuite à Kansas City entre les Chiefs et les Patriots. On remercie Unibet, partenaire de toutes ces émissions du dimanche. N'hésitez pas à aller parier, passer par les liens qui sont sur le site. Comme ça nous aide bien évidemment. N'oubliez pas, on se retrouve dès demain soir, mise en ligne du podcast débrief des finales de conférence. On se bouge pour vous faire les débriefs dès le lendemain sur les matchs de la semaine dernière et sur les matchs de cette semaine pour le Super Bowl. Le débrief, ce sera le mardi puisque ce sera enregistré en public au Hard Rock Café évidemment. Donc n'hésitez pas, le débrief c'est demain sur le site et le podcast. N'hésitez pas à aller sur tdactu.com dès que vous le pouvez, suivez-nous sur les réseaux sociaux, tout ça. Et évidemment, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee. Il y a un petit lien en haut de tous les articles sur le site et il y a un lien à nous soutenir dans le menu. Merci beaucoup de nous avoir suivis, c'est toujours un grand plaisir. Merci beaucoup à tous, passez un très bon match. Ciao ciao.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.